Très souvent, quand vous vous promenez un petit peu partout, pas seulement dans le Lot d'ailleurs, hein, que ce soit dans n'importe quel endroit en France, on est toujours très, très souvent interpellé par des noms de villages, de hameaux, d'endroits aussi. On se demande très souvent pourquoi, par exemple, Catus s'appelle Catus. Alors, quand on regarde, quand on fouille un petit peu, on se rend compte qu'il y a une histoire avec un chat noir, Cat, Catus. Vous voyez, je vous fais la différence, hein, je vous laisse réfléchir un petit peu à tout cela. Mais on ne va pas parler spécialement de Catus, au contraire, on va parler de toponymie, de nom de lieu et de nom de pierre, avec Guilhem Boucher, qui est animateur pour l'association La Grangea et de l'Institut d'études occitanes d'Olt. Bonjour Guilhem.
Bonjour.
Alors, avant de commencer à rentrer dans la toponymie, etc., parlez-nous de l'association La Grangea.
Alors, l'association La Grangea, voilà, puisque ça s'écrit La Grangea, mais ça se prononce La Grangea, a été créée en 2006. Et notamment à l'initiative de Xavier Vidal, qui était un musicologue, musicien, pédagogue des musiques traditionnelles, qui a œuvré depuis bientôt presque 40 ans dans le Quercy, et particulièrement dans le département du Lot, pour la collecte et la valorisation des traditions musicales populaires du département du Lot. Alors au départ, ça a été à son initiative la création d'une association, l'AMTPQ, Association pour les musiques de tradition populaire en Quercy, qui continue ses activités, notamment de promotion et de diffusion de la pratique amateur des musiques traditionnelles. Et puis en 2006, il a voulu pouvoir ouvrir un lieu ouvert à tous, un peu central dans le département, où on pourrait consulter les archives, qui serait un centre de recherche et qui serait aussi un centre de pratique. Et pour approfondir cette question, puisque au-delà de la musique, eh bien, il y avait aussi tout le cadre culturel dans lequel s'inscrivaient ces musiques traditionnelles. Donc pour nous, ce sont les cultures populaires en général, et dans notre département, elles sont marquées par la langue et la culture occitane, entre autres, mais aussi les cultures de l'immigration. Donc on s'est concentré à collecter en plus des musiques et des chants et des traditions instrumentales, et même tout ce qu'il y avait autour du conte, tout ce qu'il y avait autour des métiers, tout ce qu'il y avait autour des histoires de vie, des histoires de village. Et voilà, on a amassé une somme importante de documents sonores, graphiques, vidéos sur les arts et traditions populaires du département du Lot.
Alors vous, Guilhem Boucher, vous êtes intéressé sur ce coup à la toponymie. Je disais au début que très régulièrement, quand on croise ou quand on rentre dans le nom d'un village ou d'un lieu, c'est vrai que le nom nous paraît bizarre. Il y a forcément une origine dans tous ces noms. Ils n'ont pas été inventés n'importe comment ?
Absolument pas. Ils ont une histoire. En fait, tout le défi de la toponymie, eh bien, c'est d'essayer de trouver l'hypothèse la plus probable. Alors, on n'est pas dans des sciences dures mathématiques du 1 plus 1 égale 2, même s'il y a des choses qui sont très évidentes parce qu'elles se rapportent à du langage commun. Alors maintenant, où tout le monde parle beaucoup plus français qu'occitan, eh bien, le souvenir de l'occitan s'éloigne dans la mémoire des gens. Mais quand vous arrivez dans un lieu-dit qui s'appelle, mettons, le Pêche, et bien tous les gens qui parlent occitan savent que l'Oupette, eh bien c'est la colline. Voilà. Ah. Ou quand vous arrivez dans un endroit qui s'appelle le Clou, eh bien tous les gens qui parlent occitan savent qu'une Clou, eh bien c'est une doline. Voilà.
D'accord. Ben voilà une bonne question, parce qu'effectivement, le Pêche, par exemple, on en voit très régulièrement à Cahors, aux alentours de Cahors, par exemple, il y en a beaucoup.
Exactement.
Donc c'était effectivement, juste pour dire, c'est un endroit montagneux.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, par exemple, nom qui représente cette diversité représentative du lieu ?
Alors, dans l'histoire de la toponymie, en fait, il faut s'imaginer que pour nous qui enquêtons, il faut remonter, c'est une enquête qui nous fait remonter le temps. Alors, les toponymes français dans un territoire qui a parlé occitan jusque encore aujourd'hui, les personnes les plus anciennes sont nées en parlant occitan avant français, même s'il y en a de moins en moins, mais on en a encore. Et en tout cas, il faut se dire que la société des adultes, jusque dans les années 70, 80, très couramment, voilà, parler occitan, et donc c'était quand même la langue véhiculaire du territoire, très courante dans les campagnes à côté du français. Donc, et ça depuis 1000 ans en arrière, en fait. Donc dans les 1000 dernières années, l'occitan a quand même énormément marqué les appellations sur le territoire. Donc je vous citais les noms de pêche pour la colline, les noms de clous. Mais on peut aussi remonter un peu plus loin, parce que avant l'Occitan, eh bien, on a eu d'autres mouvements de population, on a eu des influences germaniques, donc qui ont laissé des noms comme Goudou, qui est un village en hameau de la commune de la Bastide, à côté de la Bastide Murat. Si on remonte encore avant, eh bien, on a toute la période gallo-romaine qui nous a laissé tous les noms en hac, avec les Marsillac, Sénaillac, Espagnac, qui veut dire la propriété de monsieur ou de un tel. Et puis, en fait, avant cette période, eh bien, on a tout un tas de mots venus du Celte, puisqu'évidemment, les Celtes sont arrivés autour de 700 et 500 avant Jésus-Christ. Donc, ils avaient leur propre langue et ont laissé dans la toponymie des mots. Et avant les Celtes, eh bien, il y avait d'autres populations dites indo-européennes et voire pré-indo-européennes. Le cas des Basques en est un exemple. Et alors, en général, ces populations, quand elles sont arrivées, eh bien, elles ont laissé des noms, notamment autour des rivières, autour des montagnes. Alors, on peut les mots comme Alzou, la rivière qui coule en dessous de Rocamadour, le vieux mot du Lot, Olt, eh bien, sont des hydronymes, des noms d'eau, eh bien, qui sont extrêmement anciens. Ou alors sur Montcuq, par exemple. Montcuq, c'est un cas très intéressant de pléonasme. En fait, ça dit deux fois la même chose. Ah. Montcuq, vous avez le mot mont. En fait, c'est quand les Romains sont arrivés, eh bien, ils disaient montem, c'était le mont, la hauteur. Et en fait, dans les anciennes langues de ce territoire, eh bien, cuq ou tuc, eh bien, ça veut dire aussi la hauteur. Et alors, comme les Romains ne comprenaient plus ce mot-là pour dire hauteur, eh bien, ils ont rajouté le leur. Donc, ils ont dit mon cuc, mais en fait, ça veut dire deux fois mon, ça veut dire deux fois hauteur, hauteur, mais dans deux langues différentes.
Alors, si je comprends bien, par exemple, dans certains villages, alors déjà, si je comprends bien, c'est qu'on peut presque dater l'existence du village, finalement. Si on se base par rapport à l'origine, qu'il soit celte, basque, occitane, on imagine à quel moment le village a été créé.
Alors, comment dirais-je, pour les villages, c'est assez... Alors, c'est assez difficile. Comment dirais-je? Ce qu'on sait, c'est que tous les noms anciens, pour le coup, les noms les plus anciens ne parlent pas tant du nom d'un village que le nom de l'endroit où le village, par la suite, s'est installé, en fait. En général, plus on remonte dans le temps, plus on décrit la nature du sol, la nature du relief, ou alors l'écoulement des eaux. En général, tous les noms anciens décrivent ça. Et puis, petit à petit, eh bien, des foyers de peuplement se font. Et effectivement, on a certains nombres de villages qui, pour le coup, remontent à l'époque gallo-romaine, en tout cas. Et qui, après, eh bien, donc on est juste après l'an 0, en fait. L'an 0, et puis 100, 200. Donc on parle quand même de villages de 2000 ans, enfin de noms qui ont en tout cas 2000 ans.
Alors Guilhem Boucher, tout à l'heure par exemple, vous donniez l'exemple des villages qui se terminent en hac, qui voulait dire deux. Est-ce que ça signifie effectivement que ce village appartenait à quelqu'un?
Alors en fait, le village, il faut s'imaginer qu'avant d'être un village, eh bien on a eu quelquefois une villa gallo-romaine, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par villa? C'est, vous aviez sûrement une ferme avec un propriétaire qui avait des employés, donc c'était un foyer de peuplement autour d'une maison de maître. Et donc, en fait, une maison ne comptait pas comme aujourd'hui, mettons, pour nous, on peut habiter tout seul ou à deux ou à quatre dans une maison. Il faut s'imaginer que dans une maison, c'était toute une maisonnée et qu'on avait certes des propriétaires, mais qu'on avait leurs employés. Et donc, c'était un petit foyer de peuplement. Et alors, si, mettons, on prend le village d'Espagnac, en fait, on a le nom Hispanius, et puis après, on a le mot hac. Et donc, c'était la propriété de monsieur Hispanius. Et pour le coup, il faut s'imaginer un foyer de peuplement qui ne ressemble pas au village d'aujourd'hui, bien évidemment.
Alors, des cas, par exemple, comme la ville de La Bastide-Marnac. Parce que nous, quand on entend La Bastide, on se dit parce que c'est un village qui est une bastide, tout simplement. Mais du coup, j'ai un peu de mal à comprendre l'origine de son nom, du coup.
Alors, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que, pour le coup, le mouvement des Bastides, lui, c'est un mouvement qui date du bas Moyen-Âge, en fait. On arrive autour des années 1100, 1200, Et donc, ça paraît tout à fait être en décalage avec le mot Marniac, par exemple. Mais il faut s'imaginer que le mot Marnac, eh bien, vient d'un propriétaire. Et c'est-à-dire que il y a un lien très intime entre les noms de lieux et les noms de personnes. Bien souvent, des noms de lieux ont donné naissance à des noms de personnes et réciproquement, des noms de personnes et s'étant installés dans un endroit ont donné des noms de lieux. Si je prends à côté de la Bastide Murat, l'endroit de Régagnac, typiquement le mot de Régagnac est un nom de personne qui a donné un nom de lieu.
Et la Bastide Murat, justement, ça veut dire que c'est une ville fortifiée?
C'est pas fortifié.
J'y vais vraiment très simplement là, j'avoue. Hein.
Bien sûr. En fait, les Bastides, c'est un mouvement de villes nouvelles qui se caractérise par quoi? Par des originalités en termes d'urbanisme, avec des plans et des rues quadrangulaires, et puis surtout des règles fiscales, notamment, et commerciales plus avantageuses. À l'époque, ce sont un petit peu c'est le mouvement qu'on dit des Bastides, des villes franches aussi, ou des sauvetés. Voilà. Alors, ce serait une caricature de dire que c'était comme Andorre aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un mouvement un petit peu au-delà de l'originalité architecturale. Il y a aussi une originalité économique dans ces villes, et dont beaucoup, par ailleurs, se trouvent sur ce qui sera le front franco-anglais pendant la guerre de Cent Ans, par ailleurs. Mmh. Et alors, pour le nom de Murat, eh bien, c'est un nom qui a été révisé parce que le prince Murat, qui est entré dans la famille de Napoléon Ier, eh bien, a été un illustre personnage qui, par la suite, a donné son nom à la Bastide qui s'appelait au départ Fortunière, qui était dérivée de la Bastide Fortanière, de la vieille famille médiévale des Fortaniers de Gourdon. Parce que la Bastide dépendait au départ des seigneurs de Gourdon.
Et alors, il y a une particularité aussi dans nos endroits, enfin même, j'imagine, peut-être un peu partout en France, c'est qu'il y a beaucoup de noms de lieux qui évoquent le patrimoine géologique aussi. On en a parlé au début, les monts, mais par exemple, est-ce que ça pouvait être par rapport à la qualité de la pierre? J'imagine la roque des Arcs, par exemple. La roque, c'est peut-être une pierre un peu plus dure?
Alors, pour le coup, quand on parle de la roque, là, c'est assez particulier. Dans le monde occitan médiéval, la roque, c'est à mettre en correspondance aussi avec l'omouton, donc les endroits qui s'appellent la motte. Eh bien, c'est tout le mouvement des châteaux fortifiés. Alors, nous, particulièrement dans les endroits rocheux, les roques, ce sont souvent des châteaux troglodytes. Et alors, quand vous passez, ou des fortifications semi-troglodytiques.
Alors, pour rappeler troglodyte, ça veut dire que c'est fabriqué dans la montagne, hein, c'est ça?
Voilà, qui prennent en tout cas la roche, la montagne comme appui de construction. Et en fait, vous avez, notamment si vous remontez toute la vallée du Célé, tout ce qu'on appelle les châteaux des Anglais ou le château du Diable, que ce soit à Cabroré ou à Bringue, eh bien, tous ces endroits sont des rocs, finalement. Ce sont des espèces de petits châteaux fortifiés et semi-troglodytiques.
Ça fait beaucoup de recherches, ça. Vous devez avoir des sacrées archives pour. Qui les fait, ces recherches, vous-même?
Alors, pour le coup, la recherche, c'est une œuvre qui est forcément collective, et tout ce que je vous dis là, eh bien, moi, je ne l'ai pas inventé. J'ai compulsé de nombreux ouvrages, j'ai suivi, et de gens qui nous ont devancés, donc des gens qui se sont intéressés à la linguistique, des gens qui se sont intéressés à l'histoire, des gens qui se sont intéressés au patrimoine. Et en fait, ce qu'on fait, c'est simplement continuer ce que les autres ont commencé, essayer de vérifier certaines hypothèses quand elles n'étaient pas toujours solides, quelquefois les infirmer quand elles nous semblent pas solides non plus, mais bien souvent, surtout, les confirmer et donner à les connaître. Parce qu'il y a un travail formidable qui a été fait par tout un tas de chercheurs dans le département et hors département par ailleurs, et qui mérite d'être connu. Et c'est en cela qu'on essaie d'œuvrer dans les veillées qu'on fait, notamment avec le parc naturel régional, mais pas seulement, pour donner à connaître et susciter de la curiosité chez les gens pour connaître l'origine ou la raison du nom des lieux qu'ils habitent ou qu'ils traversent.
Est-ce que vous pouvez nous conseiller, Guilhem Boucher, justement, s'il existe un livre qui peut nous éclairer un peu plus sur ces noms de nos villages du Lot?
Alors, il y a eu des travaux très intéressants à l'échelle du parc naturel régional, menés par le professeur des universités Gaston Bazalgue, qui est résident de Couzou et qui a beaucoup œuvré pour faire connaître la toponymie du département du Lot et plus particulièrement du parc naturel régional autour de la roche. C'est comme ça qu'il vous explicite tout ce que peut être une balme, les endroits où les gens s'appellent balmettes. En fait, on a vraiment à voir avec la roche plate ou autre. Et donc, on a tout un patrimoine autour de la pierre et de l'eau qu'il a bien explicité. Donc, je renvoie vraiment, en ce qui nous concerne, les ouvrages de Gaston Bazalgue, entre autres. Je pense que ce sont les plus accessibles dans notre département et qui le conduiront ensuite vers tout un tas d'autres ouvrages, puisqu'il y a des bibliographies qui sont indiquées à la suite vers les œuvres de Monsieur le Chanoine Nègre, vers les œuvres d'un autre prêtre qui est originaire d'Anglar-Juliac, qui s'appelait François Lacoste, etc.
Juste pour terminer, la petite cerise sur le gâteau, Guilhem Boucher, j'espère que vous allez pouvoir nous répondre, mais j'imagine que oui, après tout ce que vous nous avez dit. Cahors, les origines du nom Cahors.
C'est intimement lié au peuplement gaulois, en fait, et à la tribu des Cadurques. Alors, ce qui est difficile pour nous, c'est que, pour le coup, les Celtes n'écrivaient pas ou très peu, et quand ils écrivaient soit avec l'alphabet grec, très peu avec l'alphabet latin. Mais néanmoins, ce qui était avancé, c'est que le mot de Cadurque, Caturki, pour certains, voudrait dire combattant, tribu de combattants. Mais on n'en est qu'à une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que le mot de Cahors dérive directement de la tribu des Cadurques. Donc c'est il y a un patrimoine celte qui vit toujours finalement dans le nom des Cahorsins à ce jour.
Donc c'est une ville qui a des origines gallo-romaines.
Ah, complètement. Et même avant gallo-romaine, c'est une ville complètement gauloise et celte. Et je pense que la consultation des travaux des archéologues et des historiens lotois feront remonter assez loin, pour le coup, les foyers de peuplement de la vallée du Lot et de la zone de Cahors. Ce qui est très intéressant, et c'est que, et une fois qu'on a fait de l'étude toponymique, après, c'est de s'imaginer comment, au-delà du... Plus on remonte dans le temps, dans les périodes néolithiques et même bien avant, comment les hommes ont pu peupler, qu'est-ce qui a pu rester dans le langage de ces hommes qui est passé dans les langues qui nous sont parvenues. Et là, on rentre dans le monde de la préhistoire et nous avons tout un tas de spécialistes dans le département qui nous permettent d'appréhender ce qu'a pu être l'aventure de ces hommes sur ce territoire à ces hautes époques.
Mais là, on démarre une autre histoire, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Merci Guilhem Boucher, c'était très intéressant. Et la toponymie, en tout cas, parler de la toponymie, de noms de nos villes et de leur origine. J'espère que cela aurait été instructif pour un bon nombre d'entre nous. Moi en priorité, parce qu'effectivement, très souvent, je voyais le mot pêche. Ça n'a rien à voir avec le fruit, hein, ça on s'en doutait un petit peu, vu l'état de la montagne, on voyait que des cailloux, mais maintenant on sait que ça veut dire colline. Voilà, au moins j'aurais appris ça. Merci beaucoup Guilhem Boucher. Je rappelle que vous êtes animateur de l'association La Grande Jaille, l'Institut d'études Occitane d'Olt. Pardonnez-moi si je le dis sans l'accent occitane. Hein. Merci Guilhem Boucher.
Merci à vous.